Verset 23 du même livre. Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ?» En parlant de l'homme de Dieu. « Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Certains pourraient penser peut-être que c'est une femme qui est dans le mensonge le plus grotesque, au point de dire à son mari que tout va bien. Mais ceux qui penseraient qu'elle est dans le mensonge ne comprennent rien à la foi. Peut-être que certains pourraient penser que c'est de l'optimisme, un optimisme remarquable, mais cette dose d'optimisme à ce niveau-là n'existe plus. Il est consumé depuis bien longtemps. Elle ne fait absolument pas preuve d'optimisme ici, mais d'un réalisme qui la conduit à la foi en Dieu qui peut tout. Ferait-elle preuve d'auto-suggestion à la méthode Coué? Franchement, je pense qu'à ce niveau-là, il y a bien longtemps qu'on ne fait plus la méthode Coué, puisque la méthode Coué consiste de mémoire à répéter 20 fois la même chose et à se dire « ça y est, ça va bien ». Alors si vous n'allez pas bien, ce n'est pas la peine de dire 20 fois « je vais bien, je vais bien, je vais bien ». Ça ne changera rien. Et pourtant, cette femme dira « tout va bien », dira-t-elle. Et même si elle ne comprend pas ce que Dieu fait, marchant au milieu des nuages et de l'orage, elle pourra déclarer qu'avec Dieu, qui tient le gouvernail de sa vie, tout va bien. En hébreu, shalom, voire aussi le mot paix. Pourquoi réagit-elle ainsi? Parce qu'en fait, cette femme a appris à connaître le secours divin. Tout va bien. Un petit retour en arrière, au chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 17. Il est écrit, « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. » Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, et l'enfant, la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Un petit tour en arrière, avant de revenir tout à l'heure sur le début de cette pensée, de cette prédication. J'aimerais voir avec vous un portrait de cette femme. Un portrait de cette femme. On est dans une époque où la femme a tellement été méprisée depuis bien des années, bien des siècles. La femme il a fallu qu'on lui donne le droit de voter. S'il vous plaît, c'était en quelle année, 1900 ? Mettez-vous d'accord, Ruben, il est où ? Il le sait, lui, il l'a su. J'ai plus, pas oublié. Bon. Après, on dit à la femme, les femmes, restez à la maison, vous ne faites rien, vous, de toute manière, c'est l'homme qui ramène la paye. Oui, tu parles. Ce sont les hommes qui n'ont pas éduqué les enfants et qui n'ont pas lavé le linge, qui n'ont pas fait la popote, qui n'ont pas fait le ménage, mais enfin, ils ne font rien à la maison. C'est du bénévolat. Et elles font peut-être plus que les hommes. Hein ? Bon, enfin voilà. Mais à un moment donné, on leur a dit, il faut que la femme s'émancipe. Il faut qu'elle travaille. Il y a eu comme un soulèvement à un moment donné où des femmes ont pris comme une revanche parce qu'elles ont tellement été maltraitées, malmenées, et puis sans parler des histoires. La femme a toujours été... Et puis certains, même dans certaines religions, ont méprisé la femme. Même quand on dit, selon la Bible, « Femme, soyez soumise au mari », alors tout de suite, ça grince. Sauf que la Bible ne dit pas « Femme, soyez soumise à votre mari » en disant, excusez du terme très familier, « C'est la bonne du mari », mais se mettre sous la protection du mari, c'est ça que ça veut dire. Et une femme qui se sait aimée se mettra sous la protection de son mari, parce que pour elle, ça ne sera pas du forcing, parce qu'elle se sait aimée. Et ici, donc, cette femme, elle est mise en lumière dans ce passage de la parole et elle vient, en fait, suppléer au manque, même, eh bien, d'un mari, nous allons le voir tout à l'heure. La première chose que nous voyons chez cette femme, c'est que c'est une femme généreuse. Au verset 8, il est écrit « Elle le pressa d'accepter à manger ». Et en fait, c'est devenu presque une habitude. Pas presque, c'était devenu une habitude que l'homme de Dieu, lorsqu'il passait à Sunem, eh bien, il venait déjeuner, manger, il y avait une pension pour lui, et cette femme, eh bien, aimait la présence, eh bien, de la venue d'Élisée. À un point qu'il est écrit que toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Il y avait un bon accueil. Et en fait, entre eux, ce couple et lui, et Gehazi le serviteur, il y a eu des liens affectueux qui se sont noués entre eux, des liens invisibles, mais qui étaient bien présents. Et puis cette femme, le caractère de cette femme, eh bien, nous montre aussi qu'elle voulait davantage. Puisque cette femme dira, faisons-lui une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Cette femme ne voulait pas simplement se contenter de le voir passer, manger, merci, au revoir, à la prochaine. Cette femme voulait que cet homme reste dans cette chambre haute. C'est tout un symbole. En fait, ce n'était pas l'homme par lui-même, mais cette femme avait appris à connaître ce que représentait la présence de Dieu dans son foyer. Elle ne voulait pas se contenter d'avoir la présence de Dieu simplement à une réunion, à un repas. Elle voulait pouvoir quitter le repas et sentir toujours la présence de Dieu au sein même de son foyer. Tout va bien. Cette femme nous donne comme un miroir en nous disant, et nous, est-ce que nous aimons simplement la présence de Dieu parce qu'il y a eu des chants, une belle musique, et puis il y a des gens que je connais depuis longtemps, ils m'ont connu plus jeune, moins jeune, enfin peu importe, et j'aime les revoir. Le dimanche matin, on appelle ça la communion fraternelle. Et puis, il y a des nouvelles personnes. Et puis, on apprend à les connaître, on apprend à les aimer. Et, dit, ah, tiens, et on apprend, on dit, oh, c'est une richesse. Et puis, on aime la présence de la personne de Dieu. Mais quand on rentre à la maison, est-ce que nous continuons à chérir cette présence de Dieu ? Dieu ne veut pas se limiter simplement à être présent pendant un lieu de culte. Mais Dieu veut être présent au sein même de notre foyer. De notre foyer, même pendant nos congés, pendant nos difficultés, pendant nos réussites, pendant aussi parfois nos échecs. Quand nous sommes dans le tourment par rapport à certaines situations que nous pouvons rencontrer. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Élisée, bien sûr, peut paraître un nom comme ça en disant c'est un beau prénom, ça sonne bien, c'est un nom hébreu, mais en fait, la définition d'Élisée, c'est Dieu de mon salut. Je veux que le Dieu de mon salut soit en permanence avec moi, toujours avec moi, parce que j'aime sa présence. Il y a dans le verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. il y a la pensée de la durabilité. Elle voulait davantage, davantage. En fait, elle voulait que cet homme soit comme... Elle savait qu'il y avait, comment dirais-je, un temps qu'il viendrait, puis un moment où il partirait. Elle n'avait pas des yeux, un regard sur cet homme, comprenez bien, ce n'était pas cet homme, mais ce qu'il représentait, ce qu'il était, c'est-à-dire Dieu via cet homme. Ce n'est pas l'homme par lui-même, vous avez compris. Elle n'était pas intéressée par cet homme. C'était ce que cet homme représentait, le salut de l'Éternel. Et cette femme, eh bien, nous parle aussi en nous montrant que, bien sûr, que cet homme était de passage, c'était un saint homme de Dieu qui venait et qui a accepté, vous avez reconnu qu'il a accepté, vous avez remarqué plutôt, qu'il a accepté, il n'a pas rechigné, il a commencé petit à petit eh bien, à manger chez cette dame, peut-être une première fois, et puis elle était insistante, en disant, mais vous allez reprendre la route, mangez encore ce soir, et puis après vous reprendrez la route. Et puis petit à petit, il est venu s'installer chez cette dame, combien de jours, le temps de se reposer. En fait, il y a un ordre de progression, d'engagement, et on apprend à connaître Dieu. Quand on vient à Jésus, dans les premiers temps, on se dit, oh oui, bon, c'est bizarre, je me sens bien, il y a quelque chose ici. En fait, on dit, il y a quelque chose, mais en fait, c'est l'action du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Alors, au début, on est novice, on dit, bah, oh, c'était bien, oh, et puis il n'y a pas besoin de se mettre debout, assis, debout, assis, debout, assis, et puis faire les mêmes prières constamment. Puis on sent, les gens, ils prient avec leur cœur. C'est étonnant, je n'ai jamais connu ça. Et petit à petit, en faisant ses propres expériences, on avance avec Dieu, on dit, Seigneur, reste un peu plus avec moi. Reste encore avec moi. Mais en même temps, pour les chrétiens qui sont plus expérimentés, comprendront, on ne ressent pas toujours la présence de Dieu. Il y a des moments où nous sommes sur la montagne, et puis des fois, Dieu veut que nous retournions dans la vallée. Et on dit, Seigneur, tu m'as laissé tomber, tu m'as abandonné. Alors, Seigneur ne peut abandonner personne, nous le savons, c'est écrit, c'est biblique. Mais ça montre aussi cette image que cet homme passait, mais aussi, eh bien, il repartait pour aller ailleurs. Et il revenait, c'était cyclique. Et puis, c'est une femme qui faisait avec son cœur les choses. Elle aurait pu profiter de la situation, puisqu'il est écrit au verset 13, « Voici, c'est Élisée qui dit à Gehazi, son serviteur, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ?» Et au chef de l'armée, elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » En fait, l'homme de Dieu est en train de dire, bah, quelque part, pour te remercier de ton hospitalité, de ce que tu fais pour moi et mon serviteur, veux-tu, as-tu besoin de quelque chose ? Tu veux que je parle ? Excusez de le dire ainsi, j'ai le bras long. J'ai des connaissances. Est-ce que tu veux que je parle pour toi ? Elle dira, non, ta servante est au milieu du peuple. C'est-à-dire, en fait, je n'ai besoin de rien. Et on comprend ainsi que cette femme n'a pas été dans le calcul. Les anges, je fais ça pour essayer. Vous savez, dans le monde religieux, il y a beaucoup de gens qui se disent croyants. Chrétiens, ou pas d'ailleurs, dans d'autres religions, qui font que... Il y a beaucoup de gens qui font des choses par intérêt. En disant, Seigneur, j'ai aidé la mamie là, à traverser la route, tu penses hein, que quand j'arrive là-haut... Je l'ai déjà dit, tant pis, je le répète. Une fois, j'ai regardé un reportage à la télévision, c'était des gens qui parlaient de l'évangile de la prospérité. Vous connaissez l'évangile ? C'est-à-dire qu'on ne vous parle que de vos sous, de votre argent. Et puis on y met un petit peu Dieu quand même, parce que sinon ce serait tellement flagrant. Et à un moment donné, le gars, là, il dit, donnez votre carte bleue. Ils donnent leur carte bleue et ils mettent de l'huile dessus pour la oindre. Vous avez compris ? Pour oindre la carte bleue. Et en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Mais c'est pour vous montrer un peu la stupidité, mais aussi le calcul. Les gens acceptent, une femme disait en quelques mots, j'ai donné tant à Dieu parce que, en gros, elle disait, je crois, parce que c'est marqué que je te rendrai au centuple. En fait, simplement, ils font un placement. Seigneur, je t'ai donné 100 euros, hein. Tu penses que... Mais en fait, ça, c'est pas aimer Dieu. C'est je fais un placement. En fait, je fais les choses par intérêt. Ou alors, je peux très bien faire les choses par intérêt. Frère, tu dis bien que c'est moi qui t'ai aidé, hein, pour que ça se sache. Alors les gens, ils recevront leur gloire par les hommes en disant « Quel frère, quelle sœur, oh, j'étais pas là !» mais ne recevons pas la récompense qui sera dans les cieux. Que notre main gauche ne sache pas ce que fait notre main droite, ou vice-versa. Donc cette femme, on y voit une femme qui ne cherche pas les choses par intérêt, mais qui le fait avec son cœur, et uniquement avec son cœur. Et voilà que l'homme de Dieu a vu ces choses, l'a remarqué, et cette femme, cet homme de Dieu va avoir une parole de connaissance, il va exercer le don, hein, des dons spirituels. Il est écrit au verset 16, Élisée lui dit, alors par contre, pardon, verset 14, l'homme de Dieu dit, que faire pour elle ? Parce qu'à tout prix, il voulait faire quelque chose pour cette femme, pour lui être reconnaissant. Et d'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Être chrétien, c'est savoir être poli aussi. C'est savoir dire merci quand il faut dire merci. Savoir être reconnaissant aussi à l'égard de ses frères et ses sœurs. Ce n'est pas parce que ce sont nos frères et nos sœurs. Moi, je vais vous le dire simplement, je n'ai pas de potes à l'église. J'ai des amis là, de Romans, mais ce n'est pas mes potes. C'est mon frère et ma sœur, et ce sont devenus nos amis. Je n'ai pas de copains à l'église. Ce n'est pas, des fois j'embête Bruno, vous l'avez remarqué, hein, c'est mon paratonnerre, mais ce n'est pas mon pote. Et je ne suis pas son pote. C'est mon frère, je suis son frère. Voilà. Ça veut donc dire que quand, entre frères et sœurs, on ne doit pas se manquer de respect. Chacun chez soi. Je n'ai pas à savoir combien vous gagnez à la retraite ou votre salaire. Ça ne me regarde pas. Chacun chez soi. Et on doit avoir des limites. Et les limites, ça commence par le respect mutuel des uns et des autres. Tiens, t'as vu l'autre, comment elle est coiffée là-bas ? Oh, dis donc, dis donc, bonjour ! Ah, son bonhomme, il doit être content, hein ? Quoi ? L'autre, déjà l'autre, c'est ta sœur. Et tu dis son bonhomme, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je n'ai pas à parler comme ça. Mon frère, ma sœur. Et des fois, ça coince. Mettre de l'huile et des demandes de pardon, des réconciliations parfois, parce que des fois on n'est pas tous mis au même. Mais c'est pas mon pote, je suis pas son copain, il n'est pas mon copain. Ça s'appelle du respect. Et cet homme, Élisée, veut apporter à cette femme quelque chose malgré tout. C'est de la reconnaissance pour ce qu'elle a fait pour lui. Et Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il y appela, Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Encore une fois le respect. Elle ne rentre pas dans la chambre parce que c'est chez elle. Bah, c'est chez moi, donc c'est bon, hein ? Non, non. Cette pièce, elle l'a mise à part. C'est une partie de sa pièce qu'elle a mise pour Dieu, via cet homme de Dieu. Elle se tient à la porte respectueusement. Et l'homme de Dieu va avoir une parole de connaissance. Il est écrit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils, et à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, amen. Et l'enfant grandit. Il y avait un mais dans cette famille. Vous voyez, cette femme était pleine de générosité. Son mari a accepté, on verra après. C'est un drôle de personnage, à mon sens. Mais cette femme était pleine de générosité. Elle n'a pas fait les choses avec un certain calcul. Cette femme, elle est là et elle aime la présence de Dieu et on s'aperçoit que plus elle goûte à la présence de Dieu, plus elle n'en veut davantage. Et il y a quand même malgré tout un mais dans sa vie. Le mais dans sa vie, c'est qu'elle n'a pas de fils. Et c'est très humiliant pour cette femme. Parce que cette femme aurait voulu donner un fils à son mari. Et puis on sait que, bon, ça c'est autre chose, mais ça fait partie, pour certaines personnes, c'est tellement important, c'est de pouvoir succéder au mari, quant au bien, lui apporter quelque chose, devenir eh bien, le nouveau gestionnaire, le nouveau, celui qui porte le nom. La semaine dernière, nous avons parlé de nom. Cet homme vieillissait et l'un comme l'autre, eh bien, ils étaient certainement dans une certaine souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfant, d'un garçon. C'était douloureux pour eux. Mais c'était une douleur qui se vivait en secret. Cette femme, elle a agi, elle n'est pas devenue amère en disant « Oui, bah, Dieu, il a pas voulu, et ben voilà, et puis ça sert à quoi de marcher avec Dieu ?» Puis voilà, on n'a qu'à travailler, puis on ne fait que ça. Non, non. Elle a goûté la présence de Dieu. En fait, cette femme, elle s'était résolue à ne plus avoir d'enfant. C'était fini. Je ne sais pas si vous êtes résolu envers quelque chose, frères et sœurs, en disant, mais ça y est, c'est fini, ça n'arrivera pas. Avoir un enfant ou autre chose, une autre situation, une relation, ou peu importe, et vous dites, ça y est, c'est râpé. Et c'est tellement ancré dans son esprit que cette femme a dit, non, trompe pas ta servante. En fait, elle est en train de douter, quoi. Et j'aime ce passage, parce que trop souvent, il y a des gens qui vous disent comme ça, si tes enfants ne sont pas convertis, c'est parce que tu manques de foi. Si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas assez la foi. Si tu n'as pas de travail, c'est parce que tu n'as pas la foi. Enfin, ce sont des gens qui nous condamnent, qui nous culpabilisent. Et quand cela arrive à eux, ils ont forcément des excuses. Or, la Bible, il y a des choses qui sont dures à expliquer, dures à comprendre parfois. Mais avant tout, la Bible, c'est la grâce. Et ici, nous sommes en plein dans la grâce. Cette femme doute. C'était quand même l'homme de Dieu qui était là. Et pour autant, cette femme, elle doute en disant, non, mais c'est pas possible. Ne me trompe pas. Comment a réagi cet homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? J'attends une réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Oui, mais quand elle a dit comme ça, non, verset 16, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Qu'est-ce que cet homme a dit après, cette réponse? Je veux vous l'entendre dire, tous ensemble, vous allez vite comprendre quelque chose. Qu'est-ce que cet homme de Dieu a dit à cette femme quand elle a dit, ne me trompe pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, lisez avec moi. Élisée lui dit, alors cette femme, non, avant, 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu enfanteras un fils, elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rien! Ça vous fait rire, hein? Parce que, bien sûr, il y a peut-être un peu d'humour, mais écoutez bien, c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Il lui a rien dit! Et Dieu fait exactement la même chose avec nous. Il y a des choses qui parfois on se dit, mais c'est pas possible, Dieu ne pourra jamais le faire. Et c'est comme si Dieu faisait silence en disant, et le silence vaut bien plus que parfois des paroles. Cet homme aurait pu rechigner en disant, quand même, moi tu fais ça, moi. Tu me reçois et ceci, cela, et je te dis ça, et il me dit, je ne me trompe pas, mais tu me prends pour qui? Tu me prends pour un menteur. Il aurait pu s'offusquer, le gars. Parce qu'en fait, tu es en train de dire, tu es en train de me tromper, tu me mens, quoi. Tromper quelqu'un, c'est mentir à quelqu'un. Eh bien, cet homme de Dieu ne dit rien. Et c'est tellement important pour cette femme. Parce qu'en réalité, ça n'empêchera pas Dieu, même si ce soir, vous ne croyez pas à ce que Dieu vous a dit. Dites, Seigneur, je ne crois pas. Soyez honnête. Moi, il y a longtemps que j'ai compris que Dieu ne nous dit pas qu'il faille dire « Oui, je crois, Seigneur. » Alors, dire, ça sert à quoi de dire « Je crois, Seigneur » alors que vous ne croyez pas? Vous croyez que Dieu, vous pouvez tromper qui vous voulez, mais vous ne tromperez pas Dieu. Amen. Moi, c'est aveugle. Seigneur, comment tu vois? Je vois comme des ombres. Il n'a pas dit « Oui. » Et Dieu est intervenu, il l'a guéri complètement. Vaut mieux dire « Seigneur, je ne crois pas. » Comme cet homme qui a dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça, c'est une parole de vérité. Vous avez le droit de ne pas croire. Mais soyez honnête et vrai devant Dieu en disant, Seigneur, je ne crois pas, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à croire. Mais viens au secours de mon incrédulité. Il faut être vrai et honnête avec Dieu, frères et sœurs. Je ne vous entraîne pas, je ne veux pas vous entraîner à devenir des incrédules. Hein. Parce qu'en fait, quand vous priez, vous n'êtes pas incrédule puisque vous parlez à Dieu. Vous n'êtes pas incrédule, vous parlez à Dieu. Seigneur, je ne crois pas. Mais viens au secours de mon incrédulité. Je voudrais tellement que ça arrive. Et en fait, c'est arrivé. Cette femme s'est retrouvée enceinte. Parce que ça n'a pas empêché Dieu de faire ce qu'il avait prévu pour cette femme. Vous savez, parfois, nous sommes trop durs avec nous-mêmes. Je ne parle pas quant à la sanctification. Hein. Oh, hier soir, j'ai vu un film. Oh, il ne faut pas être carré, frère. Il y avait une scène d'amour. Il ne faut pas être carré. On sait ce que c'est. Je suis un adulte. Tu salis tes yeux. Et tu salis tes pensées. Tu salis ton cœur, quoi. Ah, tu prends la zapette et clac, tu changes. Ou alors, si tu n'es pas capable d'être assez sévère avec toi-même, tu prends ta télé, walou, déchetterie. Eh oui. Il faut se faire violence avec soi-même. L'apôtre Paul a dit, je me traite durement. Quand il y avait une mauvaise pensée à l'égard d'un frère, aïe, 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 celui-ci, je le vois, Eh bien, il résistait, il disait, non, ça c'est fini, ça fait partie du passé, ça, je ne veux plus me venger. Si, je ne sais pas, s'il se prenait pour le coq du quartier, il disait, eh bien non, maintenant c'est l'humilité, voilà. Enfin, plein de choses comme ça. Mais quant aux bénédictions de Dieu, Dieu veut nous bénir, frères et sœurs. Vous savez, tous ceux qui ne sont pas baptisés du baptême du Saint-Esprit, vous êtes en train de vous interroger. En disant, pourquoi moi je ne le suis pas, alors que vous êtes baptisé par immersion et que vous l'avez fait avec votre cœur, sincèrement, et que vous n'avez pas un péché caché. Mais moi, je vais vous dire, il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas baptisé du baptême du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas moins que ceux qui le sont. En fait, c'est une promesse de Dieu. Et c'est peut-être justement parce que vous êtes trop dur avec vous en disant, je ne mérite pas. Mais qui vous croyez que vous êtes, hein? Franchement, vous croyez que les autres l'ont mérité, le baptême du Saint-Esprit? Il n'y en a aucun d'entre nous, et même, là, et moi, celui qui prêche, là, si vous connaissiez mon passé et ma vie. C'est par la grâce. Mais on ne doit pas jouer avec la grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas pour une petite... Il n'y a pas d'élite. Hein. On n'est pas chez les commandos ou je ne sais qui. Voilà. Hein. On est tous des soldats, des enfants de Dieu. Pour ceux qui se sont convertis. On continue ? On revient au début de cette histoire, quand cette femme va dire « tout va bien ». En fait, pourquoi cette femme, puisqu'elle n'est pas menteuse, puisqu'elle ne fait pas la méthode Coué, parce qu'elle n'est pas, voilà, dans l'optimisme ou alors mystique, « Oh, j'ai un cancer, j'ai un cancer, alléluia, gloire à Dieu, j'ai un cancer à la tête, le docteur m'a dit « j'en ai plus que 5 mois, alléluia, je crois que Dieu va... » Aïe, aïe, mais c'est de la folie de réagir comme ça. Ça, c'est des mystiques, ça. Ça, ce sont des gens qui sont mystiques. Voilà. Et ça, le mysticisme n'a rien à voir dans la Bible. Il y a des gens qui sont comme ça. Ah, oh, je plane. Moi, j'appelle ça des poètes, moi. Et les gens sont... Oh, Dieu est amour, alléluia. Attends, tu vas prendre du plomb, tu vas voir, tu vas être... Et deux pieds sur terre et le cœur dans le ciel, d'accord, mais il faut pas planer comme ça. Hein. Dieu est équilibré. Et Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes d'équilibre. Et voilà que cette femme, pourquoi cette femme va dire à cet homme, tout va bien. Et en fait, à qui elle le dit, tout va bien? À qui? En premier? Non, pas elle-même. À celui qui brille par son absence, son mari. Alors s'il y en a un qui brille, là, c'est bien lui. Hein. Et qu'est-ce qui fait son mari? Moi, si c'était moi, je demanderais un entretien, parce que ce n'est pas possible d'être comme ça. Il y a qu'elle qu'on voit, on ne voit qu'elle. Depuis le début de l'histoire, c'est elle qui... va inviter Élisée à prendre le repas. Alors, bien sûr, lui, il est... Oui, ma chérie, il dit oui à tout. Il dit oui à tout. Enfin, on ne le voit pas dire non, surtout. Alors, elle invite Élisée à manger. Il ne s'y oppose pas. Elle dit, faisons une chambre haute pour l'homme de Dieu. Il ne s'y oppose pas. C'est elle qui est appelée par l'homme de Dieu pour lui dire, tu seras enceinte. Elle est devenue enceinte par qui, à votre avis? Ben, par son mari, hein. C'est pas par Élisée, hein. Vous avez compris, ça? Vous avez compris? Non, mais moi, ça ne fait pas sourire, je vous garantis. Hein. Par son mari. Voilà. Il vit le miracle de Dieu. Voilà. Le gamin, il va voir son père. Et dans les champs, il dit, ma tête, ma tête. Au lieu de se dire, mon petit, vite, je l'emmène, on va aller voir la maman pour voir, parce que, bon, des fois, dans la panique, la maman, c'est peut-être mieux faire que le papa. Non, il fait venir son serviteur. Tiens, emmène le petit là-bas. Mais comment tu vis ? Et puis après, sa femme dit, donne-moi un serviteur, parce qu'elle voulait voir l'homme de Dieu pour en parler, pour parler de son petit qui était mort. Et lui dit, mais c'est pas la nouvelle lune. Pourquoi tu veux aller le voir ? Mais tu te rappelles qu'il y a peut-être une heure avant que ton fils, il se plaignait d'avoir des maux de tête. Et le gars, il est là, il plane. Alors lui, c'est le poète. C'est le poète. Dans toute sa splendeur. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire, entre vous et moi, il y a parfois des épreuves que nous vivons, nous serons tout seuls. Tout seul. Et même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si on est là dans un désert profond, on n'a aucune espérance parce qu'on est tellement il y a des situations parfois, vous êtes comme dans un tourbillon, et heureusement, c'est pour ça qu'il nous faut vraiment être convertis, enracinés, fondés dans la parole. C'est pas, oh, j'aime Jésus, je veux me faire baptiser. Ça y est, t'es baptisé, et puis 6 mois après, lâcher la main de Dieu, ça, c'est pas une vraie conversion. Je parle de vraie conversion. Des gens qui, je veux m'enraciner avec Christ. Et ces gens passeront par des moments difficiles, et des moments qui vont, ils perdront tout repère. Et vous serez tout seul. Tout seul. Même le mari ne comprendra rien du tout. Même la femme ne comprendra rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas gentils. Ils seront là, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a ? Et ma chérie, et tout ce que vous voulez, mon chéri, ma chérie, ben voilà. Les enfants, toute la semaine-là, ils seront là. Même le pasteur, parfois, il ne comprendra rien. Mais lui, il n'a pas tout compris. Hein. Vous savez ce qui s'est passé, là, chez cet homme, l'homme de Dieu ? C'est pour vous montrer que un jour, il y a quelqu'un, je ne lui ai pas dit parce que je ne voulais pas, il passait par un moment difficile, je ne voulais pas en rajouter. Il m'a dit, j'ai une confiance totale en toi. Jamais je dirais ça à quelqu'un. Ah, je n'ai pas relevé parce que je ne voulais pas non plus. Mais j'ai une confiance totale. Alors, c'est flatteur, merci, merci. Mais mes frères et sœurs, n'ayez pas une confiance absolue, totale dans les hommes. Cet homme de Dieu a eu des failles. Et toute la parole est inspirée de Dieu. Vous le savez aussi bien que moi, c'est écrit. Au verset 13, pourquoi l'homme de Dieu dit à Gehazi, que peut-on faire pour toi ? Il dit ça à cette femme. Au verset 14, il dit, que faire pour elle ? Et au verset 27, l'Éternel me l'a caché. C'est pour vous montrer ici, frères et sœurs, qu'il y en a un qui sera jamais, qui n'aura jamais de faille. C'est Dieu lui-même. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Même dans un pasteur, j'entends vous dire, il se tire une balle dans le pied, mais non, 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 non. Je descends de mon estrade. Moi, je suis un chrétien avant d'être un pasteur. Hein. Pasteur, c'est en plus. Hein. Mais moi, je suis un chrétien. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne faut plus avoir du tout confiance en moi. Enfin, vu que, voilà. Mais la confiance de ma vie doit être enracinée, fondée qu'en Christ seul. Pas dans les hommes. Pas dans les hommes. Et ici, cette femme, donc, va vivre une épreuve qu'elle vivra toute seule. Elle peut en parler à personne. Pourquoi cette femme demande, eh bien, pourquoi l'a-t-elle mis l'enfant dans la chambre haute de l'homme de Dieu ? Et pourquoi il ne fallait surtout pas en parler quand elle va dire à son mari, « Tout va bien, nos problèmes. » Vous savez, dans ces pays, et là on est dans une région où on peut comprendre, lorsqu'il y avait un décès, on enterrait tout de suite les gens. Dans la foulée. Parce que l'état de décomposition commençait son œuvre. Et si le mari avait vu l'enfant mort, il aurait tout de suite organisé les obsèques. Et cette femme et l'enfant seraient passés à côté du miracle de Dieu. On aurait enterré l'enfant. Comme quoi, vous voyez, il y a des choses, on ne peut en parler à personne. Vous êtes seul face à vous, devant Dieu en disant, Seigneur, bien, voilà, je ne peux en parler à personne. Il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Il y a des choses qui sont impossibles à dire. Et vous êtes là, face à votre mort. Face à votre mort. Et elle monte voir l'homme de Dieu, et puis il y a Géasi qui est là, et l'homme de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, dit en quelques mots, Dieu me l'a caché, c'est-à-dire il ne savait pas pourquoi cette femme venait. Alors l'homme de Dieu va remettre comme une autorité le bâton à Géasi pour que Géasi aille devancer Élisée. Et puis parfois, on s'aperçoit que, en fait, il y a des gens, ils traduisent la Bible comme ils veulent. Verset 29. Il est écrit, Élisée dit à Géasi, Saint-Hérin, prends ton bâton, mon bâton, dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne le réponds pas. C'est pas qu'il voulait qu'il soit mal élevé, mais c'est qu'en fait, les gens, quand ils se saluaient, c'est très, 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 très long. Et comment tu vas? Et ta mère? Et ton père? Et ta sœur? Et ton frère? Et ton neveu? Ah, bon, allez, on passe à autre chose. Hein, vite! Là, il y avait une urgence, hein. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton ami... Alors, verset 31. Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, il l'a posé, mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, il lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Quelle est l'interprétation que nous faisons de la parole de Dieu? Jamais Élisée a dit à Géasi, tu prends le bâton, mon bâton, et tu le poses sur le visage de l'enfant, et l'enfant va ressusciter. Ça n'a jamais été dit. Hein. Géasi s'est fait sa propre interprétation, en disant, oh ben c'est bien, je vais mettre le bâton d'Élisée sur le visage, et l'enfant va ressusciter. Et il attendait, quoi. Mais nulle part il est écrit qu'Élisée avait dit, l'enfant ressuscitera. Combien de fois, frères et sœurs, nous faisons notre propre interprétation de la Bible? Ah, le Seigneur m'a dit, oh, ça y est, chérie, pile les bagages, on va au Pérou. Comment ça, on va au Pérou? Dieu m'a dit qu'on partait au Pérou. Le Pérou allait se convertir grâce à moi. Mais vous savez, là, bon, je suis dans l'exagération. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle pas à des gens qui pourraient aller au Pérou pour faire un missionnaire. Mais combien de gens ont dit, le Seigneur m'a montré que c'était elle. Le Seigneur m'a montré que c'était lui. Le Seigneur... Aïe, 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 et puis comment ça se termine? Vous savez ce que la Bible dit? En parlant des prophètes, par exemple. Entre les vrais et les faux prophètes. Parce qu'il y a des faux prophètes, même à notre époque. Lorsqu'un prophète dira quelque chose, ce qu'il dit, si ça n'arrive pas, c'est un faux prophète. C'est aussi simple que ça. Si c'est un vrai prophète, ce qu'il dit, ça s'accomplira. Ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. En fait, l'homme de Dieu voulait, et je termine, vous pouvez vous décontracter, l'homme de Dieu avait dit comme ça en quelques mots, « Mets le bâton sur le visage de l'enfant ». C'était en fait, j'arrive. C'était comme s'il mettait son autorité. Comme ça, si on trouvait l'enfant en disant, chut, ne touchez pas l'enfant, l'homme de Dieu arrive, ne préparez pas les obsèques. Et l'homme de Dieu est arrivé, il s'est couché sur l'enfant. Alors, il s'est couché, verset 34. Élisée, verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Sur l'enfant et lui. Et il pria l'Éternel, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna à là, ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois. Il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. C'est bizarre hein, quand même. Hein, la bouche contre la bouche, les yeux contre les yeux, les mains contre les mains. En fait, c'était un symbole. Mais pourquoi deux fois? En fait, il semblerait que la première fois, puisque le corps de l'enfant se réchauffe, l'enfant est ressuscité. Il n'est plus mort. Mais pourquoi une deuxième fois? Et on sent qu'Élisée, il est en train de tourner, là, il attend. L'enfant est bien sans doute mort de maladie. Il fallait éradiquer cette maladie. Ça soit terminé avec cette maladie. Parce que si cette maladie était restée, eh bien l'enfant serait à nouveau mort, à nouveau atteint par cette maladie. Donc il fallait que ça soit réglé une bonne fois pour toutes. Et voyez, cet enfant va être rendu à sa mère. Et j'aimerais terminer simplement quand il dit « Prends ton fils ». Cette femme est pleine de reconnaissance à l'égard de Dieu. La question que j'aimerais vous poser, frères et sœurs et chers amis, comprenez-vous maintenant pourquoi cette femme a pu dire « Tout va bien ». Parce que cette femme avait appris à avoir confiance en Dieu, même si elle ne comprenait pas tout. Cette femme en dira en quelques mots « Ne t'avais-je pas dit de ne pas me tromper ?» En me disant « Tu auras un fils, puisque maintenant il est mort. » Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Nous avons le droit de dire à Dieu « Pourquoi Seigneur ?» En fait, c'est écrit, Dieu nous a dit « Soyons comme des enfants, soyez comme des enfants. » Un enfant, alors un enfant, si vous ne voulez pas faire votre sieste, venez aller chercher vos petits-enfants. « Et papy, et pourquoi les hirondelles font ça ? Et papy, et ceci, et papy ?» Vous ne ferez pas de votre sieste, hein, parce qu'il y a toujours des questions. Un enfant, ça pose des questions. Mais il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et Seigneur, pourquoi ça ? Mais entre poser des questions et se rebeller, ce n'est pas la même chose. Cette femme ne s'est pas rebellée. Elle ne comprenait pas pourquoi l'homme de Dieu lui avait fait cette promesse et que l'enfant est mort après. Il est mort pour mieux le retrouver après. Tout va bien.